13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Et aujourd'hui, Franck Ferrand, à l'occasion du 400e anniversaire de sa naissance, vous nous parlez de Louis Levaux, l'architecte des chefs-d'œuvre. Bonjour Franck.
Bonjour à tous. Il y a quelques jours, dans la cour du Palais Mazarin, qui est le siège de l'Institut de France, je faisais à ce même micro une déclaration d'admiration à celui que j'ai présenté alors comme le grand architecte du grand siècle, Louis Levaux. Eh bien, on célèbre cette année le 4e centenaire de la naissance de Louis Levaux et nous nous sommes dit qu'il n'y avait pas d'endroit plus désigné pour marquer l'événement que le chef-d'œuvre de Levaux, son fleuron, son plus grand coup de génie, le château de Vaux-le-Vicomte, commandé par le surintendant Fouquet au milieu du XVIIe siècle, Vaux-le-Vicomte auquel contribueront aussi, bien sûr, le décorateur et peintre Lebrun et le paysagiste, à l'époque on disait jardinier, Lenôtre. Dans ce triumvirat, ce qu'on a appelé la triade de Vaux, on peut dire que Louis Levaux a joué un rôle essentiel, un rôle directeur, et paradoxalement, il est peut-être celui dont on se souvient le moins. On ne songe pas toujours au palais Mazarin, on oublie forcément le premier Versailles qui a presque disparu derrière l'enveloppe de mansarde. L'hôtel Lambert n'est pas ouvert au public et finalement, pour voir du Levaux, si je puis dire, le premier réflexe, c'est de venir ici, à Vaux-le-Vicomte, où nous sommes accueillis par Alexandre de Vauguet. Bonjour Alexandre de Vauguet, merci à vous et merci à votre famille, non seulement de nous recevoir ici, mais d'avoir eu cette idée de rendre un hommage, de rendre l'hommage qu'il méritait à Louis Levaux pour ce 4e centenaire de sa naissance. Alors, quand on vient à Vaux-le-Vicomte, évidemment, on songe d'abord au grand homme des lieux, c'est-à-dire au surintendant Fouquet, qui a laissé partout sa devise et son écureuil. Mais j'ai envie de dire qu'il y a juste derrière Fouquet, peut-être plus important que lui encore, ce personnage de Levaux, cette ombre tutélaire dont j'ai l'impression qu'elle n'est peut-être pas toujours très présente à l'esprit de ceux qui visitent cette maison. Vous songez souvent à Louis Levaux, vous ?
Écoutez, dans la famille, oui. En tout cas, dans notre activité professionnelle, je dirais, d'accueillir les visiteurs à Vaux-le-Vicomte, on ne peut pas dissocier finalement Fouquet de ces trois génies qu'il a su rassemblés autour de lui. Et donc avec Fouquet viennent tout de suite après Lebrun, Lenôtre et Levaux. Effectivement, aux yeux des visiteurs, l'évidence n'est peut-être pas aussi claire. Et c'est à nous de peut-être faire un effort sur la visibilité de ces trois artistes. Alors Lenôtre l'est peut-être plus, Levaux effectivement moins.
Alors nous avons beaucoup de chance aujourd'hui puisque pour parler de Levaux et pour lui rendre cet hommage nécessaire, Nous sommes entourés de trois des meilleurs spécialistes du sujet. Vous avez juste à côté de vous, Alexandre, Cyril Bordier, qui est le biographe de Louis Levaux, qui le connaît très bien et qui le connaît comme peuvent le connaître les hommes de l'art, c'est-à-dire de l'intérieur. Vous êtes architecte, Cyril Bordier. Nous avons également autour de cette table, c'est une sorte de table ronde selon l'expression consacrée, nous avons Monsieur de Bergevin qui a été pendant 26 ans l'architecte en chef de cette maison, qui est sans doute, on peut dire, un des meilleurs connaisseurs du château de Vaux-le-Vicomte et donc de Levaux. Levaux, vous avez vécu avec lui, si je puis dire, Monsieur de Bergevin.
J'ai vécu avec lui, mais vous savez, comme dans tous les chefs-d'œuvre, il se passe à Vaux-le-Vicomte que le chef-d'œuvre dépasse son auteur. Et l'auteur, finalement, s'efface derrière son œuvre.
Oui, et en même temps, c'est une œuvre qui parle pour lui. Nous regardions ça tout à l'heure, cette façade littéralement, je parle de la façade latérale du château qui domine les fossés, cette façade littéralement dédoublée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que certaines œuvres, on le sait, sont éternelles. Dans le cas de Vaux-le-Vicomte, Levaux a trouvé, avec ce château et avec cette architecture, il a trouvé un interprète immortel. Puis à côté de vous, monsieur Alexandre Gady, que connaissent bien les auditeurs d'Europe 1. Alexandre, vous êtes professeur d'histoire de l'art à l'Université de Nantes. Vous êtes un de nos grands historiens de l'architecture classique et notamment c'est vous qui avez été commissaire général de l'exposition que la Cité de l'architecture et du patrimoine vient de consacrer aux hôtels particuliers parisiens. Nous avons eu l'occasion d'en parler. Est-ce qu'on peut dire que Vaux-le-Vicomte, c'est un très 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 gros hôtel particulier en pleine campagne ?
Question redoutable, celle de la typologie des édifices. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec Vaux-le-Vicomte, Levaux a franchi une étape. La carrière de Levaux est très curieuse. Au fond, elle est presque coupable en deux parties. Il y a toute une première partie qui est celle des hôtels particuliers, dont nous reste le sublime et si complexe hôtel Lambert dans l'île Saint-Louis.
Un hôtel Lambert qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, puisque son nouveau propriétaire est en train d'y accomplir de très importantes transformations.
Qui soucie tous les amoureux du patrimoine. Et après 1652, il entre au service du roi, et là on change d'échelle. Hein. Des petits hôtels très subtils parisiens arrivent, ce que j'appellerais sans aucun caractère péjoratif, les grandes machines. Le Louvre, Versailles, Vaux, Vincennes... L'Institut, vous l'avez cité.
Et pas forcément dans cet ordre-là.
Et pas forcément dans cet ordre-là, bien sûr.
Alors, pour revenir à l'ordre, pour remettre les choses à leur place et pour revivre la vie incroyable de Louis Levaux, je vous propose de repartir au départ. Et alors, Cyril Bordier, j'ai envie de dire, ça commence mal. On ne connaît pas la date exacte de sa naissance. On sait que c'était en 1612, c'est déjà pas mal.
Oui, mais on ne sait pas exactement quel jour, quel mois. Il avait également un frère qui avait 10 ans de moins. Et son père était un tailleur de pierre.
Quand vous dites tailleur de pierre, il ne faudrait pas qu'on imagine l'ouvrier qui, comme tel un forçat, serait en train de tailler des pierres.
Qui va devenir entrepreneur et qui fera le nécessaire pour former ses deux fils.
Alors, ils sont nés, les deux frères Levaux, hein, Louis et François, ils sont nés dans ce monde de l'architecture, en tout cas de la maçonnerie. Oui. Leur père, bien que déjà membre de l'administration royale des bâtiments du roi, leur père n'est pas un génie, lui. On peut le dire, Alexandre Gady.
Non, je crois qu'il faut être honnête. Et c'est d'autant plus fascinant dans la carrière de Levaux qu'il s'est extrait d'un milieu... modeste, et son père n'était pas quelqu'un d'important. On a hésité longtemps, on s'est dit, est-ce que c'est pas finalement un personnage qu'on a mésestimé ? Et en fait, tout montre au contraire, c'est un personnage assez médiocre, et ce qui renforce évidemment l'exceptionnalité du caractère du jeune Louis qui va devoir apprendre à écrire, apprendre à maîtriser magnifiquement l'écriture, la parole, et qui va devenir un grand architecte, un grand courtisan, un grand dessinateur.
Comment cet élève est-il devenu ce maître ? C'est ce que nous voyons dans un instant.
C'était l'air d'Encelade composé par Michel Richard de Lalande pour illustrer le récit du jour de Franck Ferrand sur Louis Levaux.
Et oui, nous sommes donc ici au château de Vaux-le-Vicomte. Alors quand je dis nous sommes au château, nous sommes précisément dans un château dans le château, puisque les communs de Vaux sont à mon avis aussi extraordinaires que la maison elle-même. Ce qui est inouï, ce sont les espèces de portiques latéraux comme des arcs de triomphe dédoublés qui permettent d'accéder aux communs. Il fallait vraiment un architecte tout à fait hors du commun pour imaginer de tels communs, si vous me passez ce mauvais jeu de mots. Nous sommes donc ici dans les communs ouest, non loin des écuries, dans une salle qui s'appelle maintenant la salle Fouquet et qui sert, comme aujourd'hui, aux réunions, aux conférences, aux tables rondes, etc. Alors, connaissez mon goût pour les mystères historiques, il y a incontestablement un mystère chez Levaux. Comment ce personnage, dont on a vu les origines relativement modestes, même s'il est né dans le monde de l'architecture, de la maçonnerie, etc., comment ce personnage acquiert-il la finesse, l'extrême raffinement qui seront siens, d'où cela lui vient-il ? Est-ce spontané ou est-ce qu'il a bénéficié, Alexandre Gady, de l'influence plus ou moins secrète d'un grand personnage ?
Il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est effectivement qu'il a été pris, patronné, comme on disait au XVIIe siècle, par un grand personnage, qui pourrait être par exemple Lambert, son modèle à un moment, Jean-Baptiste Lambert, ou... À mon avis, c'est plus séduisant, Esselin. Louis Esselin est un personnage important parce que c'est le maître de la chambre d'Aunier. C'est lui donc qui paye les artistes qui travaillent pour le roi. C'est le professeur de Louis XIV dans les domaines artistiques. C'est un personnage assez fastueux de la cour, dont le bel hôtel va être construit dans l'île Saint-Louis par Levaux. Et malheureusement, celui-là sera détruit en 1934. C'est donc un hôtel qui se trouverait aujourd'hui à l'emplacement de l'immeuble où habitait Georges Pompidou dans les années 70.
Mmh. Il y avait plusieurs hôtels de Louis Levaux dans l'île Saint-Louis. Et finalement, il ne reste que l'hôtel Lambert de visitable. Enfin, même pas visitable d'ailleurs, mais de visible aujourd'hui.
Voilà. Et l'hôtel Commandastri qui est voisin, mais qui a été très fortement transformé. La deuxième hypothèse... qui commence à finalement fleurer dans l'emploi du temps de Levaux, qui a été reconstitué par son dernier biographe, qui est Alexandre Cojano, c'est qu'il y a peut-être un voyage en Italie. C'est l'architecte qui est tellement le plus italien de nos architectes que tout d'un coup, évidemment, on a envie de se dire que c'est quand même évidemment, parce qu'il a réussi à faire le voyage, à passer les Alpes et à voir l'architecture contemporaine italienne qui séduisait toutes les autres cours européennes.
Il y a quelque chose de très italien quand même chez cet architecte.
Je crois qu'il faut aussi ajouter à l'inventaire de son décès, on découvre une quantité incroyable de livres, presque 400 livres. Tous les traités italiens, français, traduits, les Palladio, enfin, toutes les œuvres de la Renaissance. Et lorsque l'on commence à comparer les œuvres de ces artistes italiens, qui se revendiquent les dignes héritiers des antiques, eh bien, on va retrouver, et notamment dans Palladio, la façon dont Palladio agence ces villas, on va retrouver toute une série de points communs sans pastiche. Le talent de Louis Levaux, c'est d'avoir réussi à adapter cette architecture au goût de l'Île-de-France, avec des ardoises, avec des ciels totalement différents, avec une couleur de pierre.
Mais
les traités italiens, je pense, donc plus généralement sa bibliothèque, avec les grands traités de Lemuet aussi, qui ont été capitaux, je pense, sont aussi une source d'inspiration. Très forte.
Son talent est aussi, disons-le clairement, un talent mondain. Il sait vendre son art. Il le vendra d'abord à ses commanditaires privés, et puis un jour il fera sa cour au jeune Louis XIV, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça marchera, puisque Louis XIV s'entiche littéralement de la triade de Vaux, et surtout de Louis Levaux, au grand désespoir de Colbert, du reste. Oui.
Absolument. Il y avait tout le cercle des financiers. Il y avait près de 300 à Paris, ils se connaissaient, ou en tout cas ils se côtoyaient. Et ça se voit sur l'île Saint-Louis, lorsque Lambert, qui est son protecteur, se fait faire un hôtel particulier. Esselin, juste derrière. Jacques Bordier, qui se
tout
fait.
Ça, c'est le même milieu.
Tout le même milieu, d'ailleurs. Ils vont tous décider, parce que la construction de l'île Saint-Louis traîne, elles sont empêtrées dans des histoires financières.
C'est un lotissement de l'île Saint-Louis,
voilà,
il faut le dire.
Ils vont décider d'accélérer la construction de l'île en nommant Levaux presque architecte en chef des lieux. Et puis ils se sont achetés les parcelles les plus séduisantes le long des quais.
Et du reste, c'est le frère dont on parlait tout à l'heure, François, qui va, lui, édifier l'église Saint-Louis en Lille.
Oui, mais je crois qu'il y a une trentaine d'immeubles hôtel particulier et même de rapport sur l'île, certains de François, d'autres de Louis, et puis les premiers étaient avec le père. C'était vraiment. Ce qui est merveilleux, c'est qu'ils habitaient sur le quai des Célestins, entre l'hôtel de Sens et le quai, là, il y a une petite rue, tout ça a été démoli, et donc cette famille a vu la construction de l'île Saint-Louis. Et donc la famille a décidé de franchir la rivière et d'aller investir sur des parcelles d'abord très modeste, et puis on commençait à spéculer jusqu'à se faire un nom. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça a été à ce moment très important de la construction de Paris. Ils étaient là quand il fallait, parce qu'avant, l'île Saint-Louis ne valait rien.
On n'entend pas beaucoup monsieur de Bergevin là-dedans, je vous rassure, il arrive tout de suite, puisque nous allons en venir au grand chantier, à l'œuvre maîtresse. Nous en venons à Vaux-le-Vicomte dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et à l'occasion du 400e anniversaire de sa naissance, Franck Ferrand nous compte aujourd'hui le parcours de Louis Levaux, l'architecte des chefs-d'œuvre.
Où trouver pour parler de Louis Levaux, inspiration plus pure qu'ici, au château, dans le domaine de Vaux-le-Vicomte, où nous accueille la famille de Vauguet. Cette émission a lieu en public, figurez-vous d'ailleurs, le public peut se manifester si vous voulez, on va vous entendre à l'antenne. Voilà, un public très... Merci beaucoup. Un public très nourri et très attentif, puisque c'est celui de l'association des Amis de Vaux-le-Vicomte, qui sortent tout juste de leur assemblée générale et qui, bien entendu, ont une tendresse pour Louis Levaux, comme vous en avez une, vous aussi, monsieur de Bergevin. Quand vous avez eu à vous occuper de cette maison, à la restaurer constamment, à la reprendre, et on imagine le travail que cela représente sur une telle masse d'édifices, vous avez été constamment en contact, si je puis dire, avec Louis Levaux. Est-ce qu'il vous a parlé ?
Il m'a d'abord intimidé. Mais, comme je le disais tout à l'heure, le monument dépasse son hauteur. C'est le sentiment que j'ai souvent eu.
Est-ce qu'il y a des aspects de la construction de Vaux qui sont très spécifiques et qui même peut-être vous ont surpris ? Est-ce que vous avez ici des inventions architecturales ?
L'invention, c'est toute la composition du château.
Le château entier est une invention.
Oui, c'est ça.
L'architecture intérieure des maisons telle que nous la connaissons, en tout cas telle que nous l'avons connue à partir du XVIIe, XVIIIe et même au XIXe siècle, doit énormément à Louis Le Vau. Il est le premier à faire bouger les cloisons et à modifier la forme même des pièces, Alexandre Gady.
Oui, ce qui est extraordinaire, c'est que pendant des siècles, on a construit avec des pièces carrées ou rectangulaires. Et puis arrive le XVIIe siècle, arrive Le Vau, et à l'hôtel Lambert, il y a des pièces ovales, il y a des pièces octogonales, et il introduit une espèce de nouveau monde possible, très séduisant, parce que les nouveaux décors s'adaptent à ces formes de pièces, les plafonds sont maintenant décorés différemment, avec beaucoup plus d'ambition dans les compositions picturales. On abandonne le plafond à poutres et solives, comme celui qui est au-dessus de nos têtes, pour des choses beaucoup plus ambitieuses à l'italienne. Et quand on regarde l'architecture italienne, on voit que les Italiens se sont posés ces questions un peu avant nous, hein, mais il faut rappeler que la première grande pièce ovale dans l'architecture romaine, qu'on voit aujourd'hui enfin restaurée magnifiquement, c'est le salon ovale de Bernin au palais Barberini, 1635. Vous voyez, on est quand même aussi dans cette extraordinaire histoire de l'art qui fait que des grands génies qui ne se connaissent pas ont quelquefois des idées assez proches au même moment.
Il y a chez Le Vau la grande structure classique du château français, telle qu'elle avait déjà pu être élaborée dès le règne d'Henri II, et surtout elle explose sous le règne d'Henri IV. Et puis il y a cette poussée qu'on dit italianisante, et ça mériterait débat, du baroque, car qu'on le veuille ou non, Le Vau est bien un architecte baroque, et il y a déjà les prémices de ce qui va devenir le grand siècle, le classicisme Louis XIVien. Je ne veux pas qu'on entre trop dans une discussion sur les styles, mais ce qui est fascinant chez Le Vau, c'est qu'il est exactement la synthèse du baroque et du classique.
En tout cas, à vous le vicomte, ce qui est frappant, c'est l'idée, pour moi, absolument décisivement géniale et qui va avoir une postérité, d'ailleurs, curieusement, moins en France qu'à l'étranger, et particulièrement dans l'architecture allemande, c'est l'idée de faire sortir une des pièces dehors. Ce grand salon, moitié dedans, moitié dehors, qui multiplie les vues en rayons sur les extérieurs, le jardin, ça, c'est une idée extraordinaire. Coiffé comme une église.
Sur deux étages.
Sur deux étages, qu'on appelle le salon à l'italienne, dont il est un des introducteurs.
À la Palladio, pour le coup, oui.
À la Palladio, dont il est un des introducteurs dans l'architecture française. Et alors, s'il vous plaît, coiffé d'un dôme avec lanternon, emprunté tout simplement à l'architecture religieuse, et qui donne une force incroyable à une façade qu'on voit d'un recul de plusieurs centaines de mètres. Donc il a réussi, sur un château qui n'est pas très grand au sol, j'ose à peine dire ça devant les propriétaires qui doivent l'entretenir, un château qui n'a pas d'aile, hein, là voilà
Des
communs immenses mais pas d'aile, il arrive à créer une monumentalité extraordinaire à l'échelle d'un site qui lui est tout à fait immense.
Monumentalité et légèreté en même temps. Ce qu'il y a souvent de fascinant avec Le Vau, c'est l'audace avec laquelle il inverse un certain nombre de principes habituels. Par exemple, on a l'habitude d'avoir des grandes fenêtres à l'étage noble et puis des plus petites fenêtres dans les attiques. Il est l'un de ceux qui va très souvent, pas ici ou peu ici, mais qui va inverser cette proportion et avoir les petites fenêtres en entresol et au-dessus les plus grandes. On a constamment l'impression qu'il joue avec des codes qu'il maîtrise infiniment. L'autre jour, justement, dans la cour du palais Mazarin, donc dans la cour de l'Institut de France, nous regardions avec Hélène Carrère-Dancos les avant-corps de cette cour qui sont comme s'ils étaient dédoublés sur un calque, en quelque sorte. On a l'impression que l'architecte s'est amusé comme un dessinateur s'amuserait, ou comme un décorateur de théâtre pourrait le faire, Cyril Bordier.
Le Vau est un grand metteur en scène, parce que déjà l'hôtel Lambert et sa maison, qui était mitoyenne, avaient à l'époque la même modénature de façade, de façon à donner l'illusion que chaque propriétaire avait la maison voisine. Ici, là aussi, une mise en scène exceptionnelle et qui va permettre de positionner le château sur un socle et donc de donner ce centre-sol avec des fenêtres qui va permettre d'éclairer tous les sous-sols, puisqu'il n'y a plus, comme le disait Alexandre, d'ailes de commun accolées à la demeure. Tous les services sont regroupés au sous-sol. Ça, c'est très moderne. Les ailes latérales sont remplacées par des terrasses où l'on pouvait apprécier les jardins. Et donc, ça, c'est très important. Il faut aussi souligner la largeur de l'édifice. Jusqu'à Vaux-le-Vicomte, tous les bâtiments avaient à peu près, tous les châteaux, 12 mètres de largeur. Ce qui obligeait, comme l'a dit Alexandre, depuis des siècles, une trilogie immuable. Antichambre, chambre, cabinet. Et il y avait des fenêtres de chaque côté, sur cour, sur jardin. Mais il n'y avait pas d'intimité. Et l'étage noble était au premier étage pour pouvoir observer les jardins d'une certaine hauteur. Ici, au lieu de superposer les étages, il va les juxtaposer. Donc l'étage d'apparat devient le rez-de-chaussée. Mais comme on est monté sur un socle, le grand escalier d'apparat a disparu. C'est peut-être ces grands emmarchements qui vont le remplacer. Et ensuite, on a une configuration avec des appartements en quinconce. Il faut regarder le plan, c'est extrêmement intelligent, ce qui permet d'avoir une antichambre qui donne accès à deux chambres. Et puis ce grand salon qui sera, comme l'a dit Alexandre, émergent sur le jardin, absolument exceptionnel.
Vous avez employé le mot, lorsqu'on regarde des plans de Levaux ou lorsqu'on en contemple les élévations, le mot qui vient à l'esprit, c'est celui d'intelligence. Comment est-on passé de Vaux-le-Vicomte à Versailles? Eh bien, pour le savoir, je vous propose de nous retrouver tout de suite.
Jusqu'à 14h sur Europe 1,
plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et Franck Ferrand est au château de Vaux-le-Vicomte, chef-d'œuvre de l'architecte Louis Levaux, à l'honneur ce vendredi.
Tout le monde connaît évidemment cette scène célèbre de l'histoire de France. C'est un peu une image d'Épinal, cette fête du 17 août 1661, donnée par le surintendant Fouquet à la cour. Le roi est là, il est là avec la reine-mère, avec sa famille, avec des centaines et des centaines de courtisans. C'est un éblouissement tout à fait extraordinaire, un concours de talents comme seul le grand siècle pouvait s'en offrir, évidemment, et comme seul, d'un point de vue tout à fait financier, le surintendant Fouquet pouvait s'en offrir, en l'occurrence. On dit que cette fête n'a pas fait grandir Fouquet dans le cœur de Louis XIV, c'est le moins qu'on puisse dire. Fouquet sera arrêté très peu de temps après, en septembre, et puis ce sera le célèbre procès, la chute et l'interruption du chantier, monsieur de Bergevin. C'est fini à partir de là. Que se passe-t-il? Alors, on laisse les choses en plan?
Contrairement à ce qu'on parle, Louis XIV ne s'est pas emparé du château, il l'a séquestré. C'est-à-dire qu'il y restait sûrement des services qui s'en occupaient. Et c'était un monument inachevé.
Les ornements du plafond du grand, enfin le plafond lui-même, hein, du grand salon ovale, avaient été dessinés par Lebrun. Il n'a jamais été réalisé, par exemple. Ça fait partie des choses qui sont restées inachevées.
On pense, mais je ne sais pas si c'est certain, c'est qu'il a été quand même mis au carreau. C'est-à-dire qu'il a dû probablement être esquissé sur la voûte.
Alors, à propos de la rectification d'idées fausses, on imagine toujours que Louis XIV va capter l'équipe qui travaille pour Fouquet et la faire travailler pour lui. Que je sache, ils étaient tous appointés par le roi et c'était, qu'on le veuille ou non, des fonctionnaires royaux qui sont donc rentrés simplement dans leurs attributions habituelles et auxquels on n'a pas tout de suite confié l'intégralité du chantier de Versailles. Alexandre Gady, il faut dire ça aussi. Ils ont travaillé qui au Louvre, qui à Saint-Germain. Le premier qui va travailler à Versailles, c'est le nôtre. Levaux presque en même temps et Lebrun n'arrivera que nettement plus tard, lui. Quel va être à Versailles, quel va être le rôle de Louis Levaux? Comment envisage-t-il ce chantier de Versailles?
Alors, il faut imaginer que Versailles, c'est un chantier qui est un caprice du fils, comme ça avait été un caprice du père. C'est un château qui est un peu à part dans l'ensemble.
Le fils Louis XIV, en
l'occurrence. Le fils Louis XIV, voilà. Un peu à part dans la grande masse des châteaux royaux. Et au fait, comme dira Saint-Simon, le roi est plus en son particulier avec son nouvel amour qui est Mademoiselle de la Vallière. Donc c'est mieux d'être à Versailles qu'en plein milieu du Louvre des Tuileries. Et Colbert, lui, est très angoissé à l'idée que le roi se détourne du Louvre. Il écrit des lettres qui, je crois, sont au maximum de l'insolence ministérielle qu'on pouvait se permettre sous l'Ancien Régime, en rappelant que Versailles, c'est le caprice, mais le Louvre, c'est la France. Voilà. Et vous savez, la monarchie n'arrivera jamais au bout du chantier du Louvre, hein, jusqu'à ce que Louis XVI décide la fondation du musée que nous connaissons. Ça restera un grand chantier ouvert, avec quelques parties, non, sans toiture. Hein, sans toiture. Tandis qu'à Versailles, Levaux va faire des embellissements dans le petit château. Tout récemment, on sait maintenant que les textes de Mademoiselle de Scudéry sont justes. Escalier de marbre, tout de suite, dès 63. Amélioration de la distribution, décor fastueux et nouveau commun, dont il ne reste qu'une partie, qui est la vieillelle actuelle, très, très modifiée.
Et on retrouve vraiment la patte de Levaux, il faut le dire. Il y a sur ce premier Versailles de Louis XIV, une sorte d'explosion de tout ce que Levaux, aussi bien dans les hôtels particuliers que dans les différents châteaux dont nous avons parlé, a appris en quelque sorte. C'est un peu une quintessence qu'il...
Peut-être il faut reconnaître ici, on est aussi un peu chez lui, que c'est vraiment le nôtre qui a les plus brillantes idées du premier Versailles, c'est-à-dire la patte d'oie qui va créer cette fantastique regroupement de forces telluriques, tout le territoire abouti au pied du château, et qui va creuser le sillon du jardin d'origine, l'idée d'élargir l'allée centrale, de projeter le canal au fond du parc.
Alors nous en disions un mot tout à l'heure, Cyril Bordier. Levaux, dans cette période-là, va acquérir une sorte d'ascendant spirituel sur Louis XIV. Il lui fait miroiter les embellissements de Versailles comme une création personnelle. Il devient quasiment son confident. C'est un aspect de la biographie de Louis Le Vau qu'on passe parfois un peu sous silence. C'est un grand courtisan, disons les choses.
Oui, je crois qu'il est, il est très habile. Il sait séduire le roi avec des idées extrêmement claires. Ce qui, je crois, rendait fou Colbert.
Oui.
Je crois que Louis XIV demandait que Colbert les laisse tous les deux. Et je pense que Colbert avait très peur que Le Vau lui vende des merveilles.
Et
qu'évidemment, contrôlant les finances, il suffit de regarder les plans que Le Vau suggère pour les façades du pavillon du roi et pavillon de la reine à Vincennes, qui aurait dû être le palais royal voulu par Mazarin. Eh bien, Colbert lui demande de tout retirer et de faire le bâtiment que l'on connaît aujourd'hui, qui est quand même, on peut le dire, assez sec. Et on peut comprendre aussi qu'un jeune roi trouve quand même beaucoup plus de charme et d'élégance ici qu'à Vincennes.
Il y a encore quand même, j'y reviens, mais il y a bien une inspiration baroque chez Le Vau et qu'on va peu à peu essayer de faire disparaître.
Alors, n'ouvrons pas une grande querelle sémantique, mais les historiens de l'architecture ne veulent plus utiliser ce mot de baroque, est redoutable parce que c'est un mot valise, tout le monde entend une chose différente en réalité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait voir Le Vau comme les derniers feux d'artifice extraordinaires d'une grande renaissance maniérisante, donc fin de la Renaissance, avec des inventions, de la légèreté, de l'or, du marbre. Et c'est vrai que sous Louis XIV, il va se produire une ossification de l'architecture qui est aussi le produit de la grande révolution intellectuelle et scientifique du règne. Il ne faut jamais oublier que sous Louis XIV, on s'est beaucoup amusé, mais on a beaucoup pensé, on a beaucoup codifié. Et l'Académie royale d'architecture, créée par Colbert en 1671, qui fait suite aux autres grandes académies, elle participe de cet effort de normalisation. Et au fond, le règne de Louis XIV, c'est peut-être, évidemment, Vau le Vicomte, dans son premier feu d'artifice, mais pour moi, comme historien d'architecture, c'est d'abord les Invalides, c'est-à-dire un hôpital militaire dont Chateaubriand a dit des choses merveilleuses, et cette église, pour la plus grande gloire de Dieu, sur un plan centré, très intellectuel, même si c'est doré, même si c'est sculpté, c'est d'abord un objet intellectuel que Jules de Mansart a projeté sur l'hôpital construit par Libéral Bruant et dont l'austérité nous fascine.
Nous allons venir dans un instant au successeur quand même de Le Vau, au rôle de François d'Orbais, il faut absolument en parler. Je me rends compte qu'on a beaucoup cité de termes techniques et d'architecture dans cette émission et je voudrais, pour m'en excuser, vous citer quelques vers de l'illusion de Corneille, l'immense contemporain de Louis Le Vau. Faites lattes, chevrons, montants, courbes, filières, entretoises, sommiers, colonnes, soliveaux, parnes, sols, appuis, jambages, travetaux, portes, grilles, verrous, serrures, tuiles, pierres, plomb, fer, plâtre, ciment, peinture, marbre, verre, cave, puits, cour, perron, salle, chambre, grenier, office, cabinet, terrasse.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et aujourd'hui, Franck Ferrand n'est pas en studio avec moi. Non, il a choisi de vous parler du parcours de l'architecte Louis Le Vau depuis l'une de ses plus grandes œuvres.
Nous sommes donc toujours ici, en public, depuis le château de Vau le Vicomte, chef-d'œuvre de Le Vau, dont on célèbre cette année le 4e centenaire de la naissance. On sait que Louis Le Vau est né en 1612, on ne pourrait pas vous dire exactement quand, mais c'était en 1612, il y a donc un siècle. À cette occasion, vous aviez l'intention d'ailleurs, Alexandre Gady, d'organiser une exposition, mais qui a pris un petit peu de retard, si je comprends bien. Donc elle va avoir lieu en 2013.
Voilà, en même temps que Versailles va rendre hommage à Le Nôtre, j'ai essayé de proposer à toutes sortes d'institutions. Il faut dire aussi que malheureusement, ce sujet qui nous passionne et qui nous réunit ne fait pas toujours la passion de grandes institutions culturelles. En tout cas, cette exposition sera accueillie aux Archives nationales. Et je m'en réjouis parce que la plupart des fonds, bien sûr, y sont conservés. Les très beaux dessins de l'agence de Le Vau et de son dessinateur François d'Orbais. Et on pourra rendre un hommage assez digne à ce personnage si important pour l'histoire de l'architecture française.
Vous venez de prononcer le nom qui fâche, François d'Orbais.
François d'Orbais, c'est passionnant parce que dans les années 1960, un grand architecte contemporain pour lequel j'ai une immense admiration, qui est Albert Laprade, a écrit un livre à thèse en expliquant que François d'Orbais était un génie méconnu et qu'il avait été écrasé par des méchants courtisans qui étaient d'abord Le Vau et ensuite l'horrible Jules Hardouin Mansart.
Alors là, lui, c'était le courtisan. Alors, au carré.
Absolu, voilà. Et en réalité, c'est une tentative assez belle. Il a sorti beaucoup d'archives, le premier d'ailleurs, aidé par une chartiste qui était conservatrice
Laprade,
d'archives.
Oui.
Oui, Laprade, Nicole Felquet, qui l'a aidé. Mais en même temps, si vous voulez, on n'y croit pas une seconde parce qu'on ne peut citer aucun bâtiment de Dorbeck qui tienne un peu debout. Hein.
C'est le cas de le dire, parce que je crois qu'il y avait des problèmes même de façon sur ce qu'il a pu construire.
Voilà,
je pense à la terrasse de Versailles qui était pleine d'infiltrations.
Voilà, il faut dire que la terrasse est faite pour fuir jusqu'à la Villa Savoie de Corbusier. C'est un grand classique de l'architecture, mais il est sûr que Dorbeck est un éblouissant dessinateur. C'est un fidèle d'entre les fidèles, mais je ne crois pas personnellement qu'on puisse en faire un grand architecte, et certainement pas l'architecte écrasé par les autres, par les méchants courtisans. Ça, c'est une vision assez séduisante, au fond, pour relire la carrière de Laprade, qui avait eu beaucoup de mal à percer à cause du système d'organisation du prix de Rome.
Il s'est un peu projeté, en fait.
Je pense, oui. Ce qui arrive souvent dans ce genre de biographie à thèse.
Quand meurt Louis Levaux ?
En 1670. C'est la grande chance d'un homme qu'il a beaucoup regardé, qu'il a beaucoup admiré, qui est le jeune Julardin Mansart.
Eh oui.
Qui va comprendre...
Ça libère le terrain.
Ah oui, ça libère le terrain. Et Colbert, d'ailleurs, est tellement soulagé de cette mort qu'il ne va pas réattribuer le titre si important qui avait été créé en 1639 de premier architecte du roi, dont Levaux s'était très habilement emparé à la mort de Jacques Lemercier, qui a été le premier à porter ce titre prestigieux. Et le titre, en fait, ne va ressurgir que sur la tête, si j'ose dire, de Julardin Mansart en 1681. Lui a bien compris comment ça marche. Colbert est à la fin de sa vie et il va prendre vraiment la direction complète comme architecte et finalement lui-même comme surintendant de l'architecture française.
Je pense qu'on ne peut pas donner de meilleurs conseils à nos auditeurs que d'aller se planter devant un bel édifice de Levaux. Et c'est vrai que l'une des façons les plus pures de le faire, c'est de venir ici à Vaux-le-Vicomte et de se laisser peu à peu gagner par l'architecture et par ce qu'elle a à nous raconter. Il y a presque une grammaire architecturale de Levaux, Alexandre Galli.
Oui, et on pourrait se souvenir de la merveilleuse phrase de Paul Valéry dans Le Palinos, architecte. Hein, il n'y a pas de détail en architecture, tout est important. Levaux est un très grand virtuose de la forme générale, il sculpte les bâtiments. On a parlé du palais de l'Institut, le Collège des Quatre Nations. Ce coup de génie d'avoir fait une façade concave qui sert en fait de miroir pour l'appartement du roi qui devait se trouver en face dans l'aile sud du Louvre. Toute la Seine annexée dans son paysage urbain à la chambre du roi. C'est quand même incroyable comme mise en scène.
L'architecture, c'est l'art... de la contemplation par excellence, et c'est peut-être ce qui fait de cet art un des moins prisés ou en tout cas connus de notre époque. Malheureusement, il faut du temps, il faut du silence, il faut un peu de méditation pour en tirer toutes les beautés. Olivier de Bergevin, est-ce qu'il a laissé une trace en quelque sorte ?
Ça, je ne pense pas, non. Non, justement, il a été occulté par ceux qui sont venus après. Vous savez, je suis dans le milieu de l'architecture, c'est tout à fait normal. L'architecture commence avec moi.
Et finit de même.
Julardin Mansart a occulté Levaux. Hein.
Il a servi d'écran, en quelque sorte.
Oui. C'est mon sentiment. Je ne sais pas si
Cyril Bordier.
Bordier partage ce...
Oui, c'est vrai que les architectes, de toute façon, aujourd'hui, dans notre culture générale, ne sont pas aussi connus que des peintres ou des sculpteurs ou même des jardiniers. On va célébrer le nôtre et tout le monde s'y prépare.
Ah oui,
prépare.
Là, ça va être. Alors là, on reçoit déjà
ici,
les premiers livres.
On est peut-être les seuls à préparer quelque chose. Je rajoute à Alexandre qui va préparer, et je le félicite, une exposition sur Levaux. Il se trouve que je donne des cours d'architecture à l'école d'architecture et donc j'ai réussi avec les deuxièmes années de les intéresser à Levaux et nous avons entrepris la construction de maquettes de très grande échelle des plupart des pavillons centraux de l'œuvre de Levaux et on va essayer peut-être de voir avec Alexandre comment on peut utiliser ce fonds parce que ils ont reconstitué ces élèves les charpentes avec très peu de documents parfois sans documents et donc c'est une façon aussi d'intéresser les jeunes générations à cet homme absolument incontournable dans l'histoire de l'architecture. Et c'est tout de même très curieux qu'il y ait si peu d'événements. Alors que, je vais répondre à votre question, je trouve quand même que Levaux va donner le socle des 150 ans à venir en termes d'architecture. Alors, elle va être interprétée, elle va être adaptée aux modes, qu'on le veuille ou pas, et très récemment, vous avez vu qu'il y a un émir du Qatar qui a construit une imitation, pas si mal, de Vaux-le-Vicomte pour faire des appartements. Et ça s'appelle le château Louis XIV. Alors là, Fouquet se retourne à sa tour. Mais enfin, le modèle est toujours là au XXIe siècle. Finalement,
la matrice est intacte, en fait.
Voilà. Alors, Vaux-le-Vicomte ne peut pas être divisé en deux, son jardin ou son logis principal. Ça ne peut être étudié, apprécié que dans un tout. Lorsque l'on va à l'Hercule, et il faut y aller...
L'Hercule Farnèse, qui est tout à fait au bout de la perspective. perspective des jardins de Vaux-le-Vicomte.
Cette composition, c'est un tout absolument unique, où les communs semblent être collés à la demeure principale.
Il y a
des jeux de perspectives
extraordinaires,
des retournements de surprise. Toute l'étude de cette promenade qui descend vers cette rivière est absolument inouïe. Et d'ailleurs, tout le reste des compositions, je pense que toute la grammaire est dite ici. Le reste ne sera que des conjugaisons.
Mais les architectes suivants déclineront la grammaire de Levaux. Je me tourne vers l'autre Alexandre de cette table, Alexandre de Vauguet. Vous avez conscience, lorsque vous recevez tous les milliers de visiteurs qui viennent chaque année à Vaux-le-Vicomte, du rôle que vous jouez. Vous êtes en quelque sorte le conservatoire de notre plus grand architecte.
Ne m'intimidez pas tant. On l'est effectivement jour après jour, je crois, intimidé. Voilà, intimidé, conscient de cette responsabilité gigantesque qui nous incombe. On a été, à bonne école. On a 150 ans de vie familiale derrière nous qui nous donnent l'exemple, qui nous donnent un exemple extraordinaire puisqu'ils ont ressuscité Vaux-le-Vicomte en 1875, mon arrière-grand-père Alfred Sommier. Et ensuite, mon père, qui en 1968 a décidé de l'ouvrir au public. Et c'est finalement une deuxième naissance de Vaux qui a eu lieu. Aujourd'hui, à nous, effectivement, à cette nouvelle génération, de prendre ce relais et de s'inspirer, effectivement, des travaux de nos prédécesseurs, qui sont une leçon, finalement, continuelle.
Et qu'est-ce que vous préparez, là, pour la saison qui vient, comme nouveauté à montrer au public ou comme animation ?
On se force à Vaux de rendre cette maison vivante. En fait, mon père avait toujours eu cet objectif.
Qui est ici dans la salle et que nous saluons.
De dire si Fouquet devait revenir demain, je voudrais qu'il se reconnaisse, qu'il reconnaisse la maison qu'il a fait construire. Et nous, on a évidemment ce même dessin, mais également le fait que ce soit toujours une maison vivante. Cette maison a toujours abrité des familles et ça a toujours été une maison privée, une demeure privée. On désire continuer le fait qu'on se sent finalement plus invité que visiteur.
Vous savez, j'ai dû amener, je ne peux pas compter, des dizaines et des dizaines de visiteurs français ou étrangers ici. Et j'allais dire, on n'en ressort jamais indemne. On revient de Vaux-le-Vicomte avec à l'esprit la leçon du grand siècle. Et cette leçon, qu'on le veuille ou non, c'est bien à Louis Levaux que nous la devons. Merci messieurs, merci à vous quatre de nous avoir permis de rendre hommage, de rendre cet hommage qu'il méritait à notre grand architecte Louis Levaux. Et pour ceux qui arriveraient vraiment très tard, trop tard, tant pis pour eux, je rappelle que nous célébrons cette année le 4e centenaire de la naissance de Levaux.